Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio aujourd'hui, trois personnes qui vont parler des 12e rencontres de l'écologie au quotidien. Citaël Berthoux qui va être bénévole, Anne Tesson, salariée, et Claude Verret, administrateur de l'association qui porte cet événement majeur de la vie d'Iwaze. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour à la radio, bonjour à vos auditeurs.
Merci. Et auditrices.
Merci beaucoup. Alors, les 12e rencontres de l'écologie quotidien, c'est très important dans le paysage audiovisuel d'Iwa. C'est un gros événement. Alors, je suppose que ce n'est pas forcément toujours facile de se renouveler. Alors, quel est votre secret pour, d'année en année, susciter encore et encore l'intérêt des locaux comme des visiteurs étrangers ?
Eh bien, c'est une bonne question. En effet, on pourrait se dire que cela fait 12 ans qu'on organise les rencontres de l'écologie et que c'est difficile de trouver des nouveaux thèmes. Mais comme vous le savez, ce qui se passe sur la planète, aussi bien au niveau local, nous amène à avoir envie de traiter de nombreux sujets. Et ce qui se passe après les rencontres de l'écologie, après un mois à peu près de repos pour tout le monde, on organise une réunion où on fait le bilan de ce qui s'est passé pendant les rencontres de l'écologie. Et ensuite, la réunion d'après, on invite tout le monde, tous les habitants, habitantes, les bénévoles, les associations qui le désirent, à venir participer à ce qu'on appelle un brainstorming, à une tempête du cerveau, pour coucher sur le papier tous les thèmes qu'il pense être important d'aborder pour la future édition. Et donc, il y a un brainstorming où tout le monde dit ce qu'il pense être important. Et bien sûr, ensuite, on relie les différents thèmes qui sont indispensables d'être abordés. Et petit à petit, de réunion en réunion, eh bien, on recherche les intervenants, on demande à des associations, si on ne connaît pas d'intervenants sur des thèmes très précis, eh bien, de nous aider à en trouver. Et petit à petit, le programme se construit de réunion en réunion. On fait exactement pareil pour le titre. On demande à toutes les personnes qui sont là de faire un brainstorming. Quand on sent le thème général qui ressort de toutes ces réunions, et à un moment donné, eh bien, naturellement, le groupe décide du thème qui résonne le plus avec tous les thèmes abordés.
Tu as parlé d'implantation locale, et effectivement, c'est particulièrement important pour une association comme la vôtre. Je suppose que cette association qui porte ce projet se doit d'être particulièrement dynamique.
Alors l'association, elle a une chance inouïe, c'est d'être née à Die. Donc pour porter un événement d'Iwa, c'est beaucoup plus facile. Et puis elle a la chance aussi d'avoir un grand partenariat, un grand réseau. C'est-à-dire qu'on a commencé avec la Carline et le centre social et le CPE du Vercors quand il était encore sur le Diwa. Donc on a des militants qui sont au démarrage de cette action. Et puis petit à petit, c'est vrai que, comme le disait Anne, on a fait que le système de construction, de co-construction soit participatif. Et toutes les énergies sont là pendant 6 mois pour la co-construction du projet. Donc ça donne une vraie dynamique. Et bon, après, petit à petit, au fur et à mesure que nous approchons des rencontres de janvier, les réunions s'enrichissent. Souvent de nouveaux bénévoles, de gens qui veulent participer à l'action, on va le dire comme ça. Et puis aussi d'associations qui disent, ben nous, on n'avait pas pu venir l'année passée, on aimerait bien aborder, tiens, le nucléaire, tiens, les gaz de schiste, parce que c'est une des préoccupations majeures de leurs engagements. Et qu'elles ont une visibilité pendant ces journées-là, puisqu'on peut le vérifier, il y a énormément de monde pendant les rencontres. Et donc, ils ont ce jour-là une visibilité qu'ils n'auraient pas ailleurs en faisant une petite réunion à Livron ou à L'Oriole. Et donc, aujourd'hui, c'est un vrai festival. J'aime pas trop le mot festival parce que ça fait un peu comme si, en réalité, ce sont des rencontres où on réfléchit. Donc, le mot festival est un peu comme un feu d'artifice. Et ce n'est pas du tout un feu d'artifice. C'est un vrai moment où on réfléchit à notre avenir, on réfléchit à notre territoire, on réfléchit à comment reprendre en main notre vie. Et ça, on le fait avec tout le monde. Et je dirais même avec un peu d'humour qu'on le fait avec beaucoup de gens qui ne sont pas du tout écologistes.
Oui, quand on parle de rencontre de l'écologie au quotidien, il y a effectivement ce mot « rencontre ». Et c'est vrai que c'est souvent d'une convivialité extrême. D'ailleurs, on pourrait peut-être poser à Citaëlle, qui est ici présente, ce qu'elle pense d'être bénévole au sein de ces rencontres de l'écologie au quotidien. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Citaëlle ?
Alors, pour moi, ça représente beaucoup de partager avec les gens ce moment, de leur montrer que on peut être ensemble sans vraiment se connaître, de pouvoir aider l'association, ça m'apporte beaucoup. Je suis là depuis que je suis toute petite et j'espère continuer comme ça avec eux. Pour moi, les rencontres de l'écologie, c'est vraiment de la rencontre avec plein de gens, plus ou moins différentes que de moi, mais voilà, c'est...
Donc tu regrettes en aucun cas d'être bénévole ?
Non, en aucun cas je regrette d'être bénévole.
Et là, il paraît même que tu es stagiaire.
Oui, je suis là pendant 2 mois.
Et tu es chargée plus particulièrement de quoi alors ?
De découvrir l'organisation des rencontres de l'écologie. J'aide Anne et Claude pour leur travail pour la préparation des rencontres. Voilà. Donc.
Je te remercie, Stéphane.
De rien.
On aime bien les chiffres à la radio de temps en temps. Combien de bénévoles actifs vous êtes pendant l'année et puis pendant ces rencontres ?
Pendant l'année, on fait une 20aine de réunions, de bénévoles différents, je dirais qu'il y en a une 30 à 40, qui construisent le projet, plus des associations périphériques, hein, comme La République avec qui on travaille, comme la Maison pour tous de L'Oriol, comme la MJC de Livron, comme Ensemble de Livron, enfin tout un tas de partenaires avec qui on travaille depuis plusieurs années. Et puis sur l'événement, alors là, c'est passionnant parce que déjà la réunion qu'on a organisée vendredi, il y avait une 40aine de bénévoles. Donc, on se retrouve à 100 en janvier. Alors, 100, bien évidemment, c'est le propre du bénévolat. Il y a des jours où on est 40, le lendemain, on est 60. 3 jours après, on sera un peu moins parce qu'il faut que les bénévoles puissent, un, se reposer. Et deux, ils ont souvent des activités aussi autres, que ce soit leur travail. Et puis, il y en a quelques-uns qui viennent de l'extérieur aussi. On a des gens qui viennent d'Ardèche, des Hautes-Alpes, de l'Isère. Donc, ça fait une... Le mot rencontre dont tu parlais tout à l'heure est vraiment le bon mot, le mot bien choisi. Parce que c'est des rencontres où on irrigue à la fois les autres territoires, puisque ces bénévoles partent avec des idées pour aller ensemencer et s'aimer leur territoire. Et en même temps, ils apportent la richesse de ces territoires. Les gens qui viennent du Trièves, il y a un réseau transition dans le Trièves, ils viennent avec cet apport. Et donc, c'est un enrichissement mutuel des territoires.
Parlons d'avenir. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir de votre manifestation ?
Alors, y a plusieurs réponses. La première réponse, on aimerait tellement que dans la société, tout soit pris en compte au niveau de la préservation de l'environnement et de l'écologie, qu'on demande qu'à disparaître d'une certaine manière, parce que tout serait respecté et respectueux. Il s'avère qu'on n'est pas tout à fait dans ce processus-là, sociétal, hein, on va le dire, et on pourra rentrer dans les détails sur une autre question. L'association Écologie au quotidien et les associations environnementales ont beaucoup de pain sur la planche, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'avenir est vraiment à œuvrer, à bosser avec toutes les parties de la société, particulièrement avec le monde politique qui en ce moment n'est pas très virulent au niveau de l'environnement, on va le dire comme ça, hein, et puis avec le monde de l'entreprise, par contre, qui crée beaucoup. Y compris sur le DIWA, le monde de l'entreprise dans l'éco-construction, les énergies renouvelables, les plantes aromatiques, les agriculteurs bio sont à la pointe des transformations de ce territoire. Donc on aime bien coordonner et mettre en valeur tous ces acteurs parce qu'ils sont le ferment de cette société qui est en train de changer. Et pour répondre à une question qui m'a pas été posée, si les écologistes ne sont pas très, n'ont pas une bonne presse au niveau national quant au champ politique, ce dont on a strictement rien à faire à Écologie au quotidien, au niveau du terrain, au niveau des associations, au niveau des jardins partagés, au niveau de la création de mares, au niveau de l'énergie renouvelable, de l'éco-habitat, des pistes cyclables, tout ça, le monde associatif et les écologistes ont hyper présents. Ce sont, je le dirais même avec une certaine modestie, c'est que je crois que toutes les initiatives aujourd'hui qui fleurissent sur ce territoire et sur d'autres territoires sont imaginées, rêvées, engagées par des gens qui ont une profonde conscience écologique.
Il n'en reste pas moins que vous avez sans doute de l'opposition, parce que comme tu l'as bien dit, ce serait super que vous n'ayez pas besoin d'exister, mais il y a du boulot.
L'opposition, elle est toujours remarquable quand on veut changer les habitudes. Même moi, Il y a des choses qui sont tellement ancrées dans ma façon de faire. Par exemple, j'étais 30 ans agriculteur. Pour que j'arrête de labourer mon jardin, il m'a fallu quasiment 30 ans. Parce que le labour, c'était inné, c'était propre, c'était nickel. Tous les agriculteurs labourent. Et moi, j'ai mis 30 ans pour arrêter de labourer. Donc, il y a une grosse difficulté à faire changer nos comportements. Et puis aussi, on pose des mauvaises questions. On pose des mauvaises questions. Il faut réduire certaines consommations, alors qu'on est plutôt dans une société de consommation. Il faut faire attention aux quantités de choses, par exemple nos déchets. Donc, ça demande un plus de conscience, un plus de travail parfois. Et donc, tout ça, ça ne nous facilite pas la vie. En réalité, on peut le prendre d'un autre bout. En réalité, si on met de la conscience dans chaque acte, dans chaque geste, c'est un vrai plaisir de faire les choses. Et quand on sait qu'on fait des choses avec plaisir et qu'il y a une conséquence qui est plutôt plaisante pour l'ensemble de la société, on transforme cette vision catastrophiste ou culpabilisante de l'écologie pour dire, eh ben, on est en train d'inventer quelque chose de nouveau. Je prends un autre exemple qui, pour moi, est assez prégnant. Pendant des années, on a construit des maisons en moellon. Et le job de construire des maisons en moellon, c'était de faire tourner une bétonnière et de tourner du béton. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais moi, je l'ai fait pendant des années. Mais c'est le travail le plus difficile, le moins valorisant du monde. Aujourd'hui, éco-construire une maison avec des matériaux nouveaux, en tenant compte du bioclimatisme, en tenant compte des nouveaux isolants, c'est un vrai job maintenant hyper intéressant, faire de l'éco-construction aujourd'hui. Il faut tout inventer, il faut tout imaginer. L'écologie, tout est à réenchanter. Et on réenchante le travail, on réenchante le monde, on réenchante la façon de faire.
Ça me permet de vous rebrancher sur une des spécificités des rencontres de l'écologie au quotidien, à savoir un volet assez prégnant quand même sur le développement personnel, peut-être un peu moins cette année, mais quand même assez prégnant.
Oui, en effet, depuis le départ des rencontres de l'écologie, on a développé les trois écologies chères à Félix Guattari, donc l'écologie sociale, l'écologie environnementale et l'écologie, on peut dire, personnelle. Parce que, comme dit Pierre Rabhi, on peut très bien être écologiste, s'habiller en coton bio, vivre dans une maison en éco-construction et manger bio, et être violent avec sa femme et exploiter son voisin, par exemple. Donc maintenant, il est quand même connu que nos actions à l'extérieur, dans nos relations ou sur la société, ont pour origine notre environnement intérieur. Si on a une souffrance en nous qui nous amène à être violent à l'extérieur pour essayer de libérer cette souffrance, eh bien, ce qui est proposé, c'est de regarder d'abord cet environnement intérieur, de prendre conscience de cette souffrance que nous avons tous depuis l'enfance ou plus tard, et de pouvoir l'accueillir pour s'en libérer, de façon à ce que notre action à l'extérieur n'ait plus racine dans cette souffrance. Donc, c'est ce qu'on peut voir dans toutes les thérapies, ce qu'on étudie en psychologie. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est pour cela qu'on propose pendant les rencontres de l'écologie, pour les personnes qui le désirent, de participer, par exemple, cette année, un World Café sur la non-violence. D'où vient la non-violence? Qu'est-ce qu'être violent? Pourquoi être non-violent? Et on fait intervenir aussi une personne sur l'écoute de soi et l'écoute des arbres. On peut s'écouter, écouter ce qui se passe en nous pour connaître nos besoins et ensuite trouver des solutions face à ces besoins. Et cette écoute de soi nous permet d'écouter aussi les autres. Et avec cet intervenant Alain Potopidan, un spécialiste des arbres, savoir aussi écouter la nature qui nous entoure. Et là, lui, sa spécialité, ce sont les arbres. Donc, écouter les arbres.
Alors, je voudrais juste corroborer ce que tu dis avec cette petite définition que j'avais retenue. Je crois que je te l'avais déjà dit, Claude, sur une définition de l'écologie comme il y en a d'autres, à savoir que l'écologie serait la science des conséquences. Chaque fois qu'on agit, eh bien, ça ne reste pas limité à moi-même, ça agit sur tout le reste de l'univers même, le fameux effet papillon.
On dit aussi que c'est la science des relations avec nous-mêmes, avec notre environnement.
Eh bien donc, après ces digressions diverses et variées, nous pourrions peut-être parler de cette édition 2013 qui, je le rappelle, aura lieu du 23 janvier au 3 février à Die et plus généralement dans la Biovallée de la Drôme du 19 janvier au 9 février dans la Biovallée. Alors encore une fois, c'est une spécificité que vous avez peut-être amplifiée cette année. Ça ne se passe pas qu'à Die donc, hein, ça se passe un peu partout.
Oui, on avait démarré il y a 12-13 ans, quand on a démarré avec la Carline et l'espace social, on avait démarré à Die parce que c'était notre territoire de connaissance et notre territoire d'action. Aujourd'hui, on est On est engagé sur l'ensemble des 103, 104, 105 communes, ça dépend des jours. Et là, c'est un vrai plaisir. Pourquoi ? Parce que d'abord, on travaille en partenariat avec d'autres structures, comme je disais tout à l'heure, qui font un super travail de chacune dans leur coin. Je pense à l'ASPAS, je pense à la FRAPNA, je pense à l'ISANDRA, je pense à énormément d'associations. Je cite celle-là qui a un rôle environnemental parce que c'est le sujet plutôt de l'année. Et puis, c'est un vrai projet de territoire. Je le dis souvent, mais si je souille l'eau au pré à la bâtie des fonds, elle sera souillée jusqu'à Livron-L'Oriole. Donc il y a une vraie cohérence d'agir sur toute la vallée. Et ça, cette cohérence, on la vit, on la sent et on a envie de la mettre en pratique. Donc la cohérence, c'est aussi de marier ces deux territoires qui se sont ignorés depuis très longtemps, je dirais presque, pour reprendre un peu l'histoire, depuis la Révolution où Cré n'avait pas été choisi comme sous-préfecture. Et aujourd'hui, on est plus dans une alliance. Le Crétois a ses grands avantages d'avoir de l'emploi, de l'argent, c'est beaucoup plus riche que le Diois, d'avoir des centres de formation, d'avoir des entreprises. Le Diois a la chance d'avoir de magnifiques paysages, un monde associatif dynamique, de la beauté de ses forêts, la biodiversité, la rivière aussi. Et donc, je trouve que c'est formidable de marier deux territoires qui sont complètement complémentaires. Et aujourd'hui, on arrive à un terme où, par désertification historique, par choix de coopération, on va peut-être arriver à travailler ensemble.
Et donc, cette année, vous avez choisi, donc collectivement, par brainstorming et différentes réunions, à parler de la biodiversité. Et le titre, c'est très exactement « Biodiversité, cultivons la vie ». Alors, quoi qu'est-ce ?
Oui, en effet, petit à petit, au fur et à mesure des réunions, on s'est aperçu que les propositions qui étaient faites par les participants tournaient bien sûr autour, non pas de seulement dire tout ce qui ne va pas, mais comment est-ce qu'on peut proposer des actions qui vont dans le sens de la vie et non pas dans un sens mortifère, comme c'est le cas pour plein d'actions. Par exemple, ça fait plus de 13 ans qu'Écologie au quotidien fait intervenir des grands spécialistes sur l'impact des pesticides et des produits chimiques sur la santé, l'environnement, l'eau, et que ça a du mal à changer, un petit peu moins dans notre territoire parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs bio. Mais encore, malheureusement, pas suffisamment. Donc cette année, on est très très heureux d'accueillir dès le premier jour, le jeudi 23. D'ailleurs, on a avancé les rencontres pour lui parce qu'il était disponible que ce soir-là. Un grand professeur en endocrinologie qui est responsable pédiatrique du groupe INSERM. Il est au CHU de Montpellier. C'est le professeur Charles Sultan qui, lui aussi, depuis de nombreuses années, tire la sonnette d'alarme en parlant des effets néfastes des pesticides et des produits chimiques sur la santé des enfants et des adultes et qui explique comment éviter les effets mutagènes et cancérigènes des perturbateurs endocriniens. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il nous explique malheureusement que naissent de plus en plus d'enfants avec des malformations génitales à cause de tous ces produits chimiques dans l'eau, dans la nourriture. C'est vraiment très grave. Et on a beau, nous et de nombreuses associations en France et sur la planète, à essayer d'informer les pouvoirs publics, eh bien, avec cette conférence, on espère encore aller plus loin et avoir une action efficace sur les agriculteurs. Les agriculteurs, jusqu'à maintenant, ils ont fait vraiment ce qu'ils ont pu avec les informations qu'ils avaient, des techniciens de la Chambre d'agriculture depuis les années 60, etc., où on a vu, après la Deuxième Guerre mondiale, les produits chimiques arriver. Mais maintenant, il faut quand même réaliser que l'information sur le danger de ces produits chimiques à tous les niveaux est reconnue scientifiquement, médicalement. Il faut vraiment qu'on se donne tous la main pour faire quelque chose. Et d'ailleurs, il y a une association d'agriculteurs qui s'est créée, qui s'appelle l'association Phytovictimes, qui est invitée et des personnes vont venir. Ce sont des agriculteurs qui, eux-mêmes, sont devenus malheureusement malades, eux et leur famille, à cause des produits chimiques qu'ils utilisent. Donc là, il faut vraiment ouvrir les yeux et qu'on mette en place les solutions qui existent déjà et qui sont soutenues par l'association AgriBiodrome, par exemple, l'association des agriculteurs bio du territoire et par de nombreuses associations.
Dans le cadre de ces rencontres, vous allez aborder le sujet par plein d'axes différents, je suppose, de la biodiversité.
Alors, la biodiversité, d'abord, on a recentré là-dessus après des années où on avait parlé beaucoup d'écologie sociale. On s'est dit, mais et notre environnement, où on vit, comment on vit, qu'est-ce que la forêt qui nous entoure, l'eau qu'on boit, tous les animaux que l'on croise le matin tôt en se levant et tout, et ça, c'est une richesse de ce territoire et on va la mettre en avant, on va la mettre en exergue. Alors, en plus, on s'aperçoit que, et c'est pas du tout paradoxal, que plus le pourcentage d'agriculteurs bio monte sur le Diwa, plus la biodiversité revient. Je pense au grand oreillard, je pense à une multitude de variétés de chauves-souris qui avaient disparu dans les années 70 à cause de l'agriculture intensive, qui font leur retour. C'est pareil dans les rivières où on revoit les écrevisses à pattes blanches parce qu'il y a beaucoup moins de pollution. Donc finalement, ce renouvellement, ce réenchantement de la nature, c'est quelque chose qui réenchante notre territoire. Alors bien sûr qu'il aura des répercussions au niveau des estivants, du tourisme, et ça c'est fort louable, mais ça participe à l'amour qu'on a de notre territoire. Un territoire qui est vivant, un territoire qui est divers, un territoire que l'on a plaisir à regarder, des animaux que l'on a plaisir à croiser. Pour nous, ça fait partie à la beauté de ce territoire, la richesse de ce territoire. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant. On vit dans un beau territoire que l'on apprécie énormément.
Que dire de plus ? On va quand même pas passer en revue de façon exhaustive toutes les innombrables propositions de ce festival qui est d'une richesse inouïe. Donc, comment synthétiser ces rencontres de l'écologie ?
Alors, déjà, si vous regardez les 13 jours à 10 et les 22 jours dans la Biovallée, vous apercevrez qu'il y a à peu près 100 lieux de débat, 100 moments de débat et plus de 200 invités. Donc, on ne les passera pas tous en revue. Après, il y a des moments forts. Il y a des moments forts et il y a une décomposition des moments. C'est-à-dire, par exemple, il y a une journée qui est consacrée, là, je vois, sur l'agriculture. Il y a un moment fort avec Marc Dufumier, c'est évident, mais le matin, il y a des ateliers avec des acteurs locaux, les Compagnons de la Terre, le Terre de Liens, tout ça, pour voir comment nous, ces problèmes qui sont nationaux et même internationaux, sur ce territoire, on les prend à bras-le-corps et on cherche à trouver des solutions. Et en définitive, c'est pareil pour l'eau avec Marc Lémé, c'est pareil pour Pierre Larouturoux sur l'économie. Prenons par exemple, Pierre Larouturoux va nous faire une analyse nationale, voire européenne, de ce qui se passe au niveau de l'économie, et il y aurait beaucoup à dire. Il pourrait y avoir un colloque de 15 jours sur l'économie avec des grands spécialistes. Par contre, nous, sur ce territoire, en matière d'économie sociale et solidaire, en matière de coopérative, en matière d'emploi nouveau lié à l'environnement, comment on peut s'emparer des nouveaux projets qui sont proposés ou aidés en matière de développement durable, en matière d'économie sociale et solidaire ? Je prends cet exemple parce que dans les dernières analyses, l'économie sociale et solidaire et les coopératives résistent beaucoup mieux que le système capitaliste aux destructions d'emplois. Donc, c'est vraiment une bonne idée de faciliter, favoriser ce type d'économie. Après, bien évidemment, on parlera, et c'est l'accent politique de l'histoire, Michel Rivasi nous parlera du lobbying qui handicape véritablement la démocratie. On est très attaché à la démocratie délibérative et à la démocratie de proximité. Et donc, on verra quels sont les freins à cette démocratie. Et puis, on recentrera toute la fin de la semaine à vraiment la biodiversité animale et végétale avec des associations locales. Il ne faut pas oublier qu'il y a cette partie qui est atelier, où on met les mains dans le cambouis et où tous ensemble, on trouve des vraies bonnes solutions pour demain, à la sortie des rencontres, faire des choses ensemble. Il y a la partie réflexion, parce que la réflexion, c'est ce qui nourrit notre action. Et puis, il y a toutes les résonances locales, qui sont bien souvent des acteurs du territoire, des entreprises des territoires ou des élus du territoire, qui viennent témoigner de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas, ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et c'est à partir de ces réflexions-là que peut-être demain, de nombreux acteurs du territoire vont recommencer à innover, à essaimer et à reprendre en main des alternatives.
On ne peut qu'encourager les auditeurs à aller piocher sur votre page qu'on rappellera en fin d'émission toutes les richesses de ce programme. Il y en a trop pour qu'on les décrive maintenant. Anne, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, Louis. En effet, je voulais rappeler que la Ligue de protection des oiseaux LPO, avec Gilbert David au niveau local, a participé largement à cette édition, bien sûr, puisque le thème est la biodiversité. Donc, je voulais dire que c'était important. Et rappeler aussi que les rencontres de l'écologie existent grâce à l'investissement de tous les bénévoles que nous tenons à remercier ici. Ce sont des personnes qui ont vraiment envie d'être cohérents avec leurs valeurs et de mettre leurs valeurs en action sur un territoire, ce qu'ils font vraiment avec grande générosité et énergie. Et je voulais aussi dire que chaque année, on essaie de trouver des thèmes, bien sûr, sur lesquels on n'est pas intervenu, et de nombreuses personnes vont peut-être être surpris de certains thèmes qu'ils pensent peut-être éloignés de l'écologie, comme la mort. Cette année, eh bien voilà, à travers une bénévole, nous est venu un film qui s'intitule « On n'en mourra pas d'en parler », de la mort, un film québécois. Et on s'est dit, eh bien, c'était l'occasion de vraiment aborder ce sujet qui fait partie de la vie. Cultivons la vie, comment pouvons-nous être pleinement vivants si nous nions la mort que nous rencontrons à chaque instant et vers laquelle nous allons. Et donc, nous sommes heureux d'accueillir M. Lapiana, qui est directeur d'un centre de soins palliatifs alternatifs à Gardanne, dans le sud de la France. Et aussi, eh bien, pour la première fois, nous organisons ce qu'on appelle le café de la mort, qui est un lieu, simplement, un peu comme les cafés philosophiques, où le thème, eh bien, est d'échanger sur notre vision de la mort, sur des expériences par rapport à la mort. Et c'est important pour nous d'aborder tous les thèmes, et celui-ci, bien sûr, est essentiel.
Alors, outre les nombreuses propositions, moi, il y en a deux sur lesquelles je pourrais pointer et je vous invite à réagir. C'est effectivement, il y a toujours des petits ateliers pratiques, c'est toujours amusant. Alors, fabriquer son pâté végétal, faire de la cuisine bio, je suppose, un truc sur les jardins.
C'est le côté pratico-pratique des rencontres pour imaginer et faire ensemble pour créer des alternatives. Et puis aussi pour se confronter aux expériences des autres. Par exemple, chacun fait ses pâtés végétaux à sa manière. Chacun cultive son jardin bio ou pas bio à sa manière. Donc c'est aussi faire fleurir ces échanges d'expériences, la mémoire des anciens aussi sur certains sujets. Donc les rencontres, c'est aussi ça, c'est les anciens qui apportent leur savoir-faire, leur savoir-être pendant ces moments-là. Sur ce côté pratique, de là peut-être vont naître des projets. On a par le passé beaucoup de projets qui sont nés, même des associations qui se sont envolées des rencontres de l'écologie, et tant mieux pour nous et tant mieux pour elles, parce qu'à un moment, sur quelque chose de très pratico-pratique, par exemple créer une mare ou créer un jardin partagé, d'autres se sont emparés de cette thématique et en ont fait un vrai projet sur ce territoire. Donc le côté pratique, pour nous, c'est essentiel parce que on ne va pas le découpler de la réflexion, mais à un certain moment, il faut passer à l'action. Et les rencontres, d'une certaine manière, c'est un peu les starting blocks dans lesquels on va démarrer les actions de l'année.
Voilà, et puis on peut aussi rappeler que les rencontres de l'écologie sont conviviales et on invite tout le monde à participer à des bals folk. On a le premier vendredi soir, donc le 24 janvier, un bal folk avec Chambaltou. Le lendemain, un autre bal avec Tikvista et un grand spectacle. Alors là, on attend beaucoup de ce spectacle, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. C'est un spectacle musical franco-québécois, Terre de l'Aube, le vendredi 31 janvier. C'est un roman graphique qui mélange dessins, live, chansons, multimédia, BD, récits, et qui est inspiré d'un carnet d'un immigrant au Québec et devenu un véritable bâtisseur de pays. Et il y a le dernier samedi, le samedi 1er février, donc un autre bal folk pour continuer à faire la fête ensemble avec Rue de la Soif.
C'est super ce petit côté justement joie qui participe de ce réenchantement dont tu parlais, Claude. Alors tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de réagir, mais j'adore cette petite phrase qui corrobore un peu ce que tu dis sur la nécessité de l'action. C'est bien beau de faire le constat que le monde va de travers, mais effectivement, il faut aller de l'avant et être concret. Et c'est une phrase de cet humoriste Jean-Yann que j'adore, c'est « Tout le monde veut sauver le monde, mais personne ne veut descendre les poubelles ». Donc effectivement, descendons les poubelles et coltinons-nous au monde.
Tous ensemble.
Voilà. Alors, je te remercie, Anne, de rappeler effectivement que vous accueillez toujours avec bienvenue les éventuels bénévoles. Donc, peut-être rappeler des coordonnées pour savoir comment faire pour vous joindre.
Eh bien, nous avons un site internet qui est www.ecologieaucotidien.fr. Et dessus, il y a un mail et notre numéro de téléphone. Donc, Écologie au quotidien, 04 75 21 00 56.
Et je crois savoir que vous cherchez des hébergements pour les innombrables bénévoles qui souhaiterait venir de Navarre, mais qui voudrait venir dans le Diois.
Merci Louis de le rappeler. En effet, nous cherchons des hébergeurs pour les intervenants et pour les bénévoles, et aussi quelquefois pour des visiteurs qui veulent rester plusieurs jours. Et en échange, eh bien, il y a des éco-passes, des repas sur place offerts.
Alors, sinon, Citael, c'est quoi ta prochaine mission, là, concrètement ? On a parlé de concret récemment. Qu'est-ce que tu vas faire bientôt ?
Je vais voir une personne de la Biovallée pour voir comment s'organise une table ronde. Voilà.
Super. Avant de se quitter, peut-être pourriez-vous faire un petit bilan de votre action ? Est-ce que ça a eu des répercussions ? Est-ce que vous voyez un impact visible de votre action ? Alors, en toute modestie.
En toute modestie. Alors, c'est très difficile de répondre à la question parce qu'on est aussi dans un environnement qui parle beaucoup d'environnement, d'écologie, de développement durable. Donc, bien loin de moi, l'idée de se réapproprier tout ce qui va bien au niveau environnemental sur le territoire. Il n'empêche que je crois qu'il y a deux choses qui bougent. D'abord, c'est vrai qu'au niveau politique, immanquablement, il y a des décisions qui ont été prises. Je pense à tout le projet Biovallée, je pense à des actions au niveau du financement d'écoquartiers, je pense au niveau de la politique de la rivière, au niveau du tri des déchets. Il y a des choses qui avancent, des choses qu'on a fait bouger depuis des années et qu'on faisait même bouger en tant que militant avant les rencontres de l'écologie et qui commencent à être pris à bras-le-corps par le champ politique. Au niveau des entreprises, on voit très bien qu'aujourd'hui, celles qui se développent sur ce territoire, liées, ce que je disais tout à l'heure, à l'éco-construction ou aux plantes aromatiques et médicinales, ont opté pour un créneau de qualité. Hein. Ça, c'est aussi des choses qui bougent. Je pense qu'au niveau des transports, il y aura des choses qui vont bouger. Hein. Je pense aux trains et aux pistes cyclables. Et je pense qu'au niveau de la santé, des choses vont bouger aussi, hein, puisqu'on s'est arc-bouté à défendre notre hôpital depuis 1986. Je pense qu'aujourd'hui, il faut imaginer, innover et réenchanter aussi les problèmes de la santé. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est invisible dans les rencontres de l'écologie, et c'est peut-être la plus belle des choses. C'est les relations qui se tissent entre les accueillants, les bénévoles, les intervenants, les conférenciers, et qui font que ce territoire, il se renouvelle. On a donc, je disais tout à l'heure, il y a presque 300 personnes qui vont venir de l'extérieur. Une fois qu'ils sont venus à Die, souvent ils y reviennent en vacances. Et puis ils reviennent chez des gens qui les ont hébergés. Et puis ils envoient des cartes postales à Noël ou au jour de l'an. Et il y a un vrai tissage de liens qui se fait. Il y a un vrai apport, il y a une vraie convivialité. Et même mieux, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de renaître, qui a un petit peu disparu avec toutes les peurs que cultive la presse. C'est l'hospitalité. L'hospitalité. Notre territoire, même si demain il est une vraie vitrine du développement durable, j'aime pas le mot vitrine, mais s'il est quelque chose, un laboratoire du développement durable, le cœur, ce sera la qualité de l'accueil que l'on fera aux gens. Cette hospitalité, c'est ça que nous devons cultiver.
Eh bien, sur ce, Citael, Anne et Claude, je vous remercie d'être passés pour annoncer cet événement majeur de la vie d'Oise, et je vous souhaite justement une très bonne édition des Rencontres de l'écologie au quotidien.
Merci Louis, et puis merci pour le soutien de Radio Diwa aux Rencontres de l'écologie.
Et une belle journée à tous vos auditrices et vos auditeurs.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Hey, the bird. L'interview du jour.